savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Barthas sur le 107 de la bande FM ou sur radiobarthas.net. Nous sommes en direct et il est l'heure de ce petit temps radiophonique consacré à ce qu'il se passe dans le sud de la Lozère et un peu plus loin. Au programme aujourd'hui, des bulles au bord du Tarn, le retour d'une diva québécoise, l'épopée d'un tube et la femme la plus riche du monde. Bienvenue dans Midi et des poussières.
Midi et des poussières.
Et on commence tout de suite par les bulles au bord du Tarn avec toi, Philippe Kogoluyane. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Philippe Kogoluyane, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le président de l'association Ennemi BD et tu es venu pour nous annoncer l'arrivée imminente des 48 heures BD. Ça se passe à Saint-Ennemi ce samedi toute la journée. Et avant de rentrer plus en détail dans le programme, c'est la première fois qu'on se rencontre, alors faisons un peu connaissance. Pourquoi la BD ? D'où vient cette passion pour toi ?
C'est une passion d'abord liée à l'organisation, tout simplement. Il y a une quinzaine d'années de ça, l'association existait déjà, mais elle avait un peu de mal à trouver des relais en termes de dynamique d'animation. Et donc les gens du village avec qui on avait des relations diverses m'ont sollicité pour essayer de participer à l'équipe et de faire perdurer cette idée. Donc je suis parti sur ça, je n'étais pas fanatique de BD au départ, mais j'ai rencontré des gens passionnés, et puis surtout le grand plaisir d'accueillir des gens, des auteurs, de partager ça avec des publics. Donc ça n'a pas été compliqué finalement.
Donc tu n'étais pas passionné de BD au départ, mais est-ce que tu l'es aujourd'hui ?
Passionné, toujours pareil, de cette capacité qu'a la BD à être partagée par nombre de gens. C'est ça que je trouve magique, c'est-à-dire que c'est un support qui fait briller les yeux à tout le monde.
La BD 9e art, tu es d'accord ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce que tu en lis quand même ? Parce que moi, j'avais prévu un petit quiz BD pour connaître un peu ton profil, profil BDX, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, alors ça va être l'épreuve douloureuse, parce que j'en lis quelques-unes, mais pas autant que mes collègues de l'équipe, donc j'aurais dû les prendre avec moi. Mais on va y aller.
On essaie quand même ?
Ouais.
Ok, alors si je te dis Tintin ou Astérix ?
Ah, c'est Tintin.
Lucky Luke ou Gaston Lagaffe ?
Gaston.
Robert Crumb ou Volinsky ?
Volinsky.
On va voir si tu suis aussi la BD féministe Liv Strömquist ou Pénélope Bagieu.
Pénélope.
Et un peu plus pointu, Art Spiegelman ou Chris Ware.
Spiegelman.
Ok, bon bah ça va quand même, tu lis un petit peu de BD.
Un petit peu de base quand même.
Ouais. Merci pour ces premières présentations. Maintenant on peut rentrer un peu plus en détail donc, dans l'événement. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces 48 heures BD ?
Bah, c'est ce que tu disais dans l'annonce. En fait ce sont des bulles au bord du Tarn cette fois-ci. L'été, ce sont des bulles à Burle, la source. Là, on les fait au bord du Tarn, c'est-à-dire qu'on invite les gens, en fait, à aller au bord de la rivière et à partir de ce bord de rivière pour découvrir le village à travers un parcours illustré avec des panneaux que les dessinateurs nous ont offerts avec leurs personnages préférés sur des éléments de notre paysage. Et ce parcours illustré va permettre de cheminer dans la cité médiévale et de se faire plaisir en jouant avec ses enfants, en famille ou tout seul, de gagner des lots et puis après d'atterrir au chaud, parce qu'on ne sait jamais, il peut faire frais encore ce week-end, dans la salle du conseil. Et là, on va parler un peu de ce qu'on y fait.
Et donc, c'est l'idée de découvrir le territoire à travers ces panneaux BD qui reprennent des éléments du paysage, c'est bien ça ?
C'est ça.
Okay.
L'idée, c'est que Saint-Ennemi est devenu un peu le creuset en matière de BD. Et les gens nous demandaient, mais quelles traces vous laissez de cet événement ? Et donc, petit à petit, on a sollicité les auteurs avec qui l'amitié s'est créée pour qu'ils nous laissent une trace, la leur. Celle d'un graphiste de qualité, mais qui en plus s'incruste dans notre paysage. Donc ici le pont, là la rivière, là le monastère, là une ruelle, là un coin paisible. Voilà ce qui leur a donné inspiration et qui aujourd'hui est devenu un parcours.
Et ils seront présents, ces auteurs, pendant
bien sûr.
Oui, Et tu peux les citer, nous en présenter quelques-uns.
Alors, sur une opération comme les 48 heures de la BD, on est sur un format relativement modeste. L'été, là, sur le festival, on est à 30 auteurs. Là, on va être sur plusieurs auteurs, donc notamment Eric Hupsch. Eric Hupsch est un auteur qui intervient maintenant en BD depuis une vingtaine d'années. Il a commencé sur de l'heroic fantasy avec Excalibur, et puis aujourd'hui, il est plutôt sur une thématique littéraire à travers l'œuvre de Pagnol. Et il intervient beaucoup avec nous, à nos côtés, à milieu scolaire. Donc c'est quelqu'un d'intéressant qui sera présent avec, en dédicace, les élèves avec qui il a œuvré. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Oui, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, les élèves de l'école de Vielvic, oui. Là, une petite école en Cévennes. Voilà. Après, à ses côtés, il y aura des filles qui, elles, sont sur du genre jeunesse. C'est-à-dire Mistinguette notamment, je ne sais plus le nom du chat, ça m'échappe, les mystères de Versailles, donc il y a Drac, Amandine et Goélec, Sandrine, qui seront là et qui, elles, sont donc sur ce style jeunesse plus actuel, plus accessible financièrement aussi, et qui permet pour nous d'être au contact de ce public enfant avec qui on a travaillé tout au long de l'hiver.
Et alors parlons donc de ce projet voilà, qu'a mené Eric Hupsch avec donc, les élèves de l'école de Vielvic. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un projet qui s'est déroulé pendant cette année scolaire?
Oui, on déroule comme ça chaque année quelques projets. L'idée c'est de commencer d'abord par un premier contact avec les enfants, ça s'est fait à l'automne, autour de la BD. Un petit jeu simple où on manipule les BD, on les lit, on joue avec, on les leur laisse ensuite, on leur laisse une caisse de BD avec une cinquantaine de titres très variés. Et si la mayonnaise a pris, s'ils ont envie, on revient, mais à ce moment-là, on revient avec un projet, un auteur et une résidence. Et on travaille là en partenariat avec le Centre National du Livre, le CNL, qui finance l'auteur. Et les enfants, eux, pendant ce temps-là, avant que l'auteur n'arrive, ont créé une histoire avec leur maîtresse. Et cette histoire, on la découpe avec eux, on essaye de la transformer d'une narration en scénario. Et ce scénario sert de base ensuite à la création graphique, en relation bien sûr avec l'auteur. Et ce cheminement, donc, entre scénario et création graphique, aboutit à des planches de BD qu'on regroupe au sein d'un livret. Et ce petit livret est édité comme une vraie BD. Et cette vraie BD, elle est présentée comme toutes les autres au moment de nos événements. Et les enfants sont physiquement là pour dédicacer aux côtés des pros.
Et on peut les acheter?
Bien sûr. Alors, officiellement, on n'a pas le droit parce que on est dans un outil pédagogique, mais on peut contribuer à permettre à l'école d'avoir de quoi acquérir d'autres BD. C'est ça l'idée.
Voilà, sous forme donc de prix libre, de dons à l'association.
Tout à fait.
Ok, donc on aura cette séance de dédicace par les enfants, on aura la présence de ces auteurs, on aura donc sur les traces d'ennemis où on peut se balader avec ces panneaux. Quoi d'autre?
Alors quoi d'autre? Un temps pour les tout-petits, on pense toujours aux petits, parce que la lecture ça commence dès qu'on commence à avoir les yeux qui s'ouvrent, qui brillent, qui regardent des images. Et donc à partir de 3 ans, le matin, à 10h30 à la médiathèque, un temps de mise en voix de texte, mise en voix de son, de musique, avec Carole Devaux, qui est une conteuse qui est pas loin dans le territoire, et qui, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, va faire briller les yeux, va faire émouvoir les oreilles, et peut-être aussi les cœurs des parents et des amis qui seront là. Ça, c'est le début de matinée. Après, on ouvre tout au long de la journée des ateliers de création, dessin, BD, mais aussi, depuis peu de temps, on s'est équipé en numérique parce que c'est aussi une modalité que la BD utilise de plus en plus, les professionnels notamment. Et donc, on a aussi des ateliers proposés aujourd'hui avec des tablettes numériques, mais pour montrer que c'est un outil et que ce n'est pas une fin en soi et que ça prend du temps autant que si on était sur une trace papier. Donc, ces ateliers-là seront ouverts toute la journée.
Oui, vous parlez des tablettes numériques. C'est sûr que les techniques évoluent avec la discipline, hein, comme pour toute discipline artistique. Donc maintenant, c'est rare quand on dessine absolument tout à la main et qu'on colore absolument tout à la main. Il y a des outils numériques. Et de plus en plus, il y a aussi les logiciels qui génèrent automatiquement des images en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui se développe de plus en plus dans le domaine de la BD. J'ai fait quelques recherches. Il y a de plus en plus d'applications de logiciels comme ça qui existent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors on a testé, vieux principe, voir avant de causer, et on a testé ça avec des groupes d'ados là, avec qui on travaille régulièrement, avec qui on fait de la création BD depuis 3 ans maintenant. Ils se sont rendus compte de 2 choses. La première, c'est que ça ne faisait pas ce qu'ils voulaient. Et ça a été extrêmement décevant pour eux.
Les images ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient obtenir.
L'intention était loin d'avoir trouvé la réalisation attendue. Donc ça, c'était très décevant pour eux. Et deuxième déception aussi, c'est que ça leur a demandé un travail colossal Parce qu'il faut savoir prompter, il faut savoir demander à l'intelligence artificielle
voilà,
ce qu'elle
rédiger,
va faire.
Rédiger voilà. La bonne consigne, en fait,
c'est ça.
Pour la machine.
Et ça, pour eux, c'est très, très difficile. Parce que souvent, quand ils sont dans la création, ils sont dans la spontanéité. Ils ont une envie, le crayon part, et puis des fois, ça glisse vers autre chose, et ils se rattrapent à leur façon, parce que leur imaginaire est là. Avec la logique de l'intelligence artificielle, il faut programmer, en quelque sorte. Il faut savoir ce qu'on va faire, savoir ce qu'on va demander et ce qu'on souhaite obtenir. Et on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Donc finalement, ça a été une belle expérience parce que ça nous a permis à nous, d'abord, et puis à eux aussi, de se rendre compte que ça n'est qu'un outil et qu'au stade où il en est, on a encore de belles années devant nous avec un crayon, de l'aquarelle et autre chose.
La BD restera donc encore un petit peu artisanale quelques temps. D'autres ateliers prévus donc ce samedi pour les 48 heures BD.
Oui, un petit jeu de piste là, cette fois-ci, non pas dans le village, mais pour ceux qui aiment grimper et qui ont envie de voir le village d'en haut, ce superbe méandre du Tarn, on a un jeu de piste qui monte vers l'Ermitage, où là, on a repris le travail qu'on avait fait avec Florence Magnien, une illustratrice d'Heroic Fantasy, sur l'histoire d'Enemy, la légende. On a découpé la légende en 14 parties qui correspondent aux 14 étapes du chemin de croix qui monte à l'Ermitage, qui est le lieu où Enemy a fini sa vie. Et ces 14 stèles ont été décorées d'un dessin fait par Florence Magnien avec un extrait de la légende. Et le jeu, ben, c'est de constituer la légende en montant tranquillement jusqu'en haut.
Parfait. Moi, j'ai quand même une petite question technique. Ça se passe le samedi 4 de 10h à 18h à peu près. Mais si mes calculs sont bons, ça ne fait pas tout à fait 48 heures.
Et non, parce qu'en fait, les 48 heures, c'est un temps de vulgarisation qu'ont voulu les éditeurs francophones européens depuis maintenant une dizaine d'années, où ils font l'effort d'éditer neuves des BD de leur collection à 3 euros. Donc ça, c'est un prix cassé, autorisé exceptionnellement par le ministère des Finances. Et cette opération, il la double avec le tissu associatif pour que ça devienne un temps de fête. Mais cette fête, elle se situe sur nos deux registres, nos deux publics. C'est-à-dire le grand public, ça c'est le samedi, on vient d'en parler. Mais aussi le 3, c'est notre public habituel, le public scolaire, avec qui on sera sur le terrain. Voilà. Et donc, cette partie-là est un peu plus obscure, j'allais dire, un peu moins communiquée, mais elle fait partie, bien sûr, des 48 heures.
Ok, donc au bout du compte, on arrive quand même à 48 heures.
On devrait.
Ok. Et après ça, il y a un autre grand événement. Donc, tu l'as mentionné déjà, ça se passe à Burle cette fois, et c'est fin juin. Ouais. Donc ça sera la 19e édition du festival Livres et BD Bulle de Burle.
Ça, c'est notre rendez-vous un peu annuel, le rendez-vous international, puisqu'aujourd'hui, les auteurs francophones sont souvent présents. Ils aiment ce lieu. C'est un lieu pour eux de convivialité, où ils prennent le temps de vivre d'abord pour eux. On les accueille dès le vendredi, on fait une balade en canoë, à pied, une petite soirée guinguette. Ils restent le dimanche soir, on se fait un petit point haut sur le Cos, un peu sympa. Et puis, c'est surtout un lieu de rencontre entre eux. Parce qu'en fait, l'auteur de BD, c'est quelqu'un qui est souvent seul devant sa planche. Et quand il est seul, c'est pas toujours marrant, quoi. Donc, les festivals, c'est un moment de partage, de rencontre, de plaisir. C'est aussi ce qui a fait la réputation de ce petit festival Bulle de Burle. Et puis, bon, petit à petit, le public s'est rendu compte que c'était le lieu pour faire le plein de BD, quoi, chaque année. Donc, voilà, c'est le rendez-vous de début d'été. Cette année, on l'a un peu avancé. On l'a mis fin juin pour que les gens du département qui partent en vacances un peu vite puissent en profiter aussi. Mais on est toujours sur le même format. J'en parlais tout à l'heure, une petite trentaine d'auteurs, des éditeurs, des auteurs bien sûr indépendants. On a toujours eu cette volonté de garder cette place et de faire en sorte que les différents types de la BD soient présents. Puisque la BD a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Et l'idée, c'est bien d'être dans cette typologie large.
On en reparlera de toute façon sur cette antenne d'ici là. Autre chose, un autre message à faire passer à nos auditrices, nos auditeurs pour les encourager à passer par Saint-Enemy ce samedi.
Ah ben c'est simple, il y a des BD pas chers, il y a des BD de collection, pour ceux qui sont collectionneurs, il y a des occasions qui seront présentes. Et puis, pour le dire aussi pour les familles, c'est un lieu sympa où ils vont pouvoir gagner des lots en famille en se baladant. Donc finalement, une belle journée. D'autant plus qu'il semblerait que le soleil soit là. Et peut-être même la température chaude. Pourquoi pas venir à Saint-Enemy ?
Eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, Philippe Cogoliagne, d'avoir été avec nous en direct depuis le studio de Radio Bartas. On va se quitter en musique et moi, je n'arrivais pas à choisir, alors je vais te laisser décider si tu veux bien. Est-ce que tu préfères écouter le classique choix musical quand on parle de BD, c'est-à-dire le morceau Comic Strip de Serge Gainsbourg avec Brigitte Bardot ? Ou alors, est-ce que tu préférais entendre le générique de la série d'animation Les Aventures de Tintin, qui est paru en 1992 ?
Ah, allez, on va rester sur Tintin.
Sur Tintin.
Merci.
C'est parti, alors.
Et
merci.
À samedi.
Merci beaucoup et à samedi.
Des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur le 107 et c'est l'heure maintenant de la chronique Voix du Québec de Julien Boutillier. Salut Julien.
Salut.
Bienvenue de nouveau dans le studio de Radio Barthas. Merci. Tu étais là déjà la semaine dernière et tu vas rester encore un petit moment car on rappelle à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore que tu es journaliste, tu viens du Québec et tu es en résidence à la Nouvelle Dimension dans le cadre du festival Vue du Québec qui va débuter très bientôt.
Ouais, le 14 avril, dans deux semaines, 14 jours, tout voilà. Juste.
Et donc toi, tu es là et tu mènes différents projets journalistiques ici autour du festival et notamment, voilà, tu nous proposes des chroniques radio pour nous permettre de mieux comprendre et de découvrir le Québec avant le festival. C'est un peu une forme d'initiation en quelque sorte.
Si on veut, exactement.
Et alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un grand retour.
Ouais, ben tu me disais une voix du Québec. Il y a une autre voix du Québec qui a elle aussi annoncé une résidence en France cette semaine. Elle m'a même déclassée, je pense.
Elle on te peut fait dire concurrence.
Ça. Elle me fait concurrence. c'est Céline Dion, évidemment. Bon, si vous n'avez pas entendu sa grande annonce, si vous vivez peut-être sous une roche depuis 48 heures, Céline Dion a pris d'assaut la Tour Eiffel, rien de moins, lundi soir, pour annoncer son grand retour. On sait qu'elle était absente des scènes depuis quelques années, notamment en raison d'une maladie qui l'a tenue loin donc de la scène, loin du micro. Et donc, elle a annoncé donc qu'elle sera de retour en France cet automne, une grande résidence, 10 soirs, 10 dates à Paris. Évidemment, ça a eu une grande réaction en France, mais encore plus au Québec. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que au Québec, Céline Dion a atteint le rang d'icône nationale. Je pense qu'on peut vraiment dire ça, parce que c'est sans contredit la Québécoise la plus connue au monde. Il n'y a pas de doute là-dedans. Et dans les dernières années, elle a vraiment été érigée au rang d'icône. Et quasiment encore plus avec cette maladie qui l'a tenue loin des scènes. Là, il y avait une espèce de mystère où est rendue Céline Dion. Ce qui se passe avec elle. Donc, l'annonce de lundi qui, oui, a eu lieu en France, j'ai l'impression qu'elle a fait encore plus jaser, comme on dit, au Québec, parce que ça fait des jours, des semaines que les gens spéculent. Bon, il y avait ces affiches qu'on voyait un peu à Paris où il y avait les paroles de ses chansons, donc il y avait beaucoup de spéculation sur la forme que prendrait son grand retour. Et je voulais te parler un peu ce midi justement de la manière dont les Québécois perçoivent Céline Dion. Je sais qu'elle est très appréciée en France aussi, mais au Québec, elle a presque un rang d'intouchable maintenant. On ne critique pas Céline Dion, surtout depuis l'annonce de sa maladie. Elle est atteinte de la maladie de la personne raide qui lui donne notamment des spasmes qui l'a empêché de se produire sur scène. Mais je lisais justement ce matin que ça n'a pas toujours été le cas. En début de carrière au Québec, Céline Dion était perçue comme, et ça c'est un terme bien québécois que je vais expliquer par la suite, mais un peu qu'était. Donc, un peu kitsch, mais sans le vouloir, si on veut. Donc, un peu, bon, là, quelque chose qui était peut-être plus apprécié par... elle avait la réputation, donc, bon, de faire des choses un peu kitsch, un peu plus apprécié par des dames d'un certain âge, si on veut. Donc, il y a beaucoup de comédiens qui se moquaient d'elle. Il y avait beaucoup, donc, de railleries à son égard dans les médias au Québec. Mais avec le temps, avec le succès qu'elle a connu, elle est vraiment devenue comme une icône, une fierté pour les Québécois, et même des Québécois, bon, des artistes qui, disons, sont un peu plus champ gauche. On pense notamment à Xavier Dolan, qui a rendu hommage à Céline Dion dans ses films, qui utilise beaucoup sa musique dans sa filmographie. Même d'autres artistes, je pense aux Sœurs Boulay, des artistes vraiment plus champ gauche qui ont repris des succès de Céline Dion, qui lui ont rendu hommage. Et donc, vraiment, maintenant, Céline Dion est un peu appréciée de tous. Je pense que le comparatif qu'on pourrait faire en France, c'est peut-être Johnny Hallyday. Tu sais, je lisais, là, vraiment que ce serait peut-être le comparatif qu'on peut... qu'on peut faire, le phénomène qui pourrait le plus se rapprocher de ce que représente Céline Dion au Québec pour les Québécois.
C'est quand le kitsch devient chic un peu.
Ben, c'est un peu ça, parce que Céline Dion, pendant des années, voilà, c'était kitsch, c'était un peu, c'était un peu bien vu peut-être dans certains milieux de dire « Ah, moi, Céline Dion, je suis un peu au-dessus de ça », mais avec le temps, avec le fait qu'elle est vraiment devenue cette icône, on dirait que c'est redevenu un peu à la mode, c'est redevenu tendance, et là, avec ce grand retour, on voit sur les réseaux sociaux au Québec plein de gens qui se disent « Bon, ben là, c'est sûr qu'on s'en va à Paris à l'automne, qu'on s'en va faire le voyage pour la voir », et justement, il y a eu quand même quelques critiques cette semaine de certains fans, je dis « Bon, que Céline est un peu incritiquable », mais il y a tout de même des admirateurs de la chanteuse qui ont exprimé sur les réseaux sociaux un mécontentement concernant sa décision de privilégier Paris pour son grand retour. Donc, elle a annoncé que des dates à Paris. On sait que c'est une résidence, mais bon, les gens comprennent quand même que concernant la résidence, ça va lui permettre de faire le suivi sur son état physique, de vraiment prendre des pauses entre les spectacles, d'être dans une seule ville. Mais malgré tout, il y a quand même eu certaines critiques des gens qui ont l'impression qu'elle a peut-être un peu oublié le Québec d'une certaine manière. Ce qui m'amène à parler de cinéma, parce que, bon, là, je suis ici pour le Festival de cinéma. Je veux te parler du film Aline, qui est un biopic de Valérie Lemercier, sorti en 2021, qui est une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, qui a eu des réactions quand même mitigées au Québec. Je l'ai dit, c'est librement inspiré. Le film s'appelle Aline et non Céline. Donc, c'est vraiment une fiction, mais qui, bon, on comprend, on parle de Céline Dion. Et c'est Valérie Lemercier, donc, qui est une Française, qui joue Céline Dion avec un accent québécois qui est... je dirais pas parfait.
Et aussi, ce qui est très drôle dans ce film, c'est que Valérie Lemercier, elle joue Céline Dion même quand elle est enfant, avec son apparence de femme de Valérie Lemercier de 60 ans.
On parlait de kitsch, il y a un peu de ça quand même dans ce film-là. Il y a quelques moments un peu étranges. Donc oui, Valérie Lemercier qui joue Céline Dion tant à 8-9 ans qu'à 50 ans. D'une scène à l'autre, on se promène, l'accent est pas toujours exactement le même. Ça a eu quand même des assez bonnes critiques en France, et je le disais, assez mitigé au Québec, notamment, par la famille de Céline Dion. Faut dire que, bon, comme je le disais, c'est une fiction, il y a eu des noms inventés, mais bon, si on pense, par exemple, aux noms qui ont été inventés pour les frères de Céline, on est un peu dans le cliché. Là, on parle de Jean Bobin et Jean Claudin. Je pense pas qu'il y a un grand monde au Québec qui s'appelle vraiment comme ça. On est un peu dans le cliché des Québécois dans leur cabane en forêt. Et justement, Claudette et Michel Dion, donc le frère et la sœur de Céline, n'ont pas aimé du tout. Ils ont dénoncé un manque de recherche flagrant. Ils ont dit que c'était un portrait peu flatteur de leur famille. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reconnu leur famille, ni la maison dans laquelle ils ont grandi. La sœur de Céline, Claudette Dion, a même dit qu'elle avait voulu quitter la projection du film au milieu, tellement qu'elle se sentait... insultée, que sa famille a été dépeinte comme une bande qui manque de délicatesse, dit-elle. Valérie Lemercier lui avait répondu à l'époque que, bon, c'est une fiction, là, que oui, et que ça avait été fait avec amour pour Céline, mais que c'est une fiction, elle avait pris des libertés. Malgré tout, il y a quand même des Québécois qui ont apprécié. Je lisais un grand fan de Céline Dion cité dans la presse en 2021, qui disait qu'il trouvait que c'était un film extrêmement bienveillant. La famille Dion paraît super bien, les personnages sont bien développés, et il ajoutait, et ça, je trouve ça drôle, il a dit oui, c'est un film un peu malaisant, on en parlait avec Valérie Lemercier qui joue un enfant, mais il dit, Céline est un peu malaisante elle-même, elle est un peu kitsch elle-même, et donc on rentre un peu dans cet esprit-là, faut le regarder avec l'esprit ouvert, mais bon, comme quoi, je pense que la leçon qu'on peut en retenir, c'est que des fois, de faire un film sur quelqu'un qui est québécois, quand nous, on n'est pas québécois, essayer de jouer l'accent, ben, il y a des subtilités parfois qui peuvent être difficiles, mais donc ça nous ramène donc au cinéma québécois qui, lui, va être présenté à Florac. C'est vraiment des vrais films québécois faits par des Québécois, mais je pense que ça nous montre aussi que le cinéma fait pas l'unanimité, et c'est ça qui est beau à travers tout ça. Il y a des gens qui ont vraiment apprécié Aline, il y a des gens qui ont détesté. Moi, je suis un peu entre les deux, là. Je l'avais vu, ça fait un petit bout quand même, je l'avais vu dans l'avion, et je trouve que c'est un peu un film d'avion. C'est rigolo, faut pas le prendre trop au sérieux. Puis je pense que de l'aveu même des créateurs, ça se veut pas non plus un film là, qui est très intellectuellement recherché. Ça se veut une petite comédie, un biopic, on a du plaisir. Moi, j'ai quand même apprécié. C'est sûr que pour un Québécois, l'accent québécois de Valérie Lemercier est rigolo. Mais en même temps, comme tu le disais, de l'avoir joué un enfant de 10 ans, c'est rigolo aussi. Donc je pense que c'est un peu assumé qu'on est un peu là, dans de la comédie. Donc voilà, ça s'appelle Aline de Valérie Lemercier. C'est un film film donc, qui parle du Québec, mais qui n'est pas vraiment québécois, contrairement à la centaine de films québécois qu'on va avoir à Florac.
Qui arrive très bientôt. Et d'ailleurs, Valérie Lemercier, elle n'avait pas eu les droits, il me semble, pour utiliser les chansons de Céline Dion dans ce film, donc elle les a toutes fait reprendre par différents musiciens, notamment une musicienne dont j'ai oublié le nom.
Exactement, elle avait vu les droits des chansons, mais pas de la trame originale, donc elle avait fait réinterpréter les chansons de Céline Dion. Il n'y a pas eu d'accord là, de Céline Dion pour ce film, d'où le titre Alien et le fait que oui, les chansons ont été réinterprétées. Donc on était presque dans une genre de parodie, tu sais, donc on était sur la ligne un peu entre la parodie et l'hommage, mais c'était fait avec beaucoup de bienveillance, en tout cas de la part des créateurs, Valérie Lemercier, qui disait qu'elle était elle-même une grande fan de Céline Dion. Reste à voir si elle va réussir à mettre la main sur les précieux billets pour aller la voir à Paris en septembre.
Merci beaucoup, Julien, pour cette chronique. On te retrouve mercredi prochain pour la prochaine. Et on va se quitter en écoutant cette fois une vraie chanson de Céline Dion. Mais par contre, j'ai quand même choisi une reprise dans laquelle elle chante en anglais, donc c'est pas très québécois. J'espère que tu me pardonneras.
Elle a une grande carrière en anglais aussi.
Merci beaucoup, Julien. Merci. À bientôt. C'était Nature Boy, morceau composé en 1947 par Eden Abbez et interprété initialement par Nat King Cole, qui sera repris ensuite par de très nombreux artistes, de James Brown à Ella Fitzgerald, en passant par David Bowie, Django Reinhardt, Cher ou encore ici par Céline Dion sur son album A New Day Has Come, paru en 2002. Et l'histoire de ce morceau est assez surprenante. Son compositeur, Eden Abbez, est né à Brooklyn en 1908 sous le nom de George Alexander Aberly. Placé en orphelinat, il est adopté par une famille de fermiers du Kansas et c'est là qu'il commence la musique avant de partir voyager à travers les États-Unis de train en train comme les hobos de la Grande Dépression. Il atterrit en Californie en 1941 et trouve refuge à Los Angeles dans un genre de restaurant du nom de Eutrophion, un lieu à la marge, précurseur du mouvement hippie qui ne sert que de la nourriture crue et promeut un mode de vie végétarien respectueux de la nature. Les membres de la communauté qui gravitent autour de ce lieu se font appeler les Nature Boys. Ils portent cheveux, barbe et robes longues et dorment dehors dans les grottes autour de la ville. George les rejoint et se choisit un nouveau nom, ce sera Eden Abbez, qu'il tenait à écrire en lettres minuscules car les majuscules, ce ne sont que pour les seuls mots Dieu et infini, disait-il. Un sacré personnage qui aurait dit à un policier qu'il l'avait interpellé en raison de sa drôle d'apparence « J'ai peut-être l'air fou, mais je ne le suis pas. Ce sont les autres gens, ceux qui ont l'air normaux, qui sont véritablement fous. » Le policier, selon la légende, aurait approuvé et l'aurait laissé repartir tranquillement. Au restaurant Eutrophion, Eden Abbez joue du piano pour les clients, compose des morceaux. Là, il y a différentes versions, ou légendes encore. Une première raconte qu'un client, impressionné par ses talents musicaux, l'aurait encouragé à présenter ses compositions à la maison de disques Capitol. Une autre dit qu'il serait directement allé donner une partition au manager de Nat King Cole, qui se produisait lors d'un concert à Los Angeles. Quelle que soit la bonne version de la légende, le résultat est le même. Nat King Cole découvre le morceau, l'aime, le joue et ce sera l'un de ses plus grands succès. À ce stade de l'histoire, de nouveau, les versions ou les légendes divergent. La maison de disques de Nat King Cole le cherche pour signer un contrat de droit d'auteur, ou alors ce sont les journalistes qui veulent rencontrer l'homme mystérieux auteur de ce titre à succès. Peu importe, en tout cas, c'est dans un endroit totalement incongru et d'une symbolique incroyable qu'Eden Abbez est retrouvé. C'est sous la première des lettres L du panneau Hollywood sur les hauteurs de Los Angeles. C'est là que ce Eden Abbez en total nature boy à la marge de la société avait établi son campement, incarnant au mieux les paroles de son morceau. Il était un garçon étrange et envoûté. On dit qu'il a erré très loin par-delà terre et mer, mais il était très sage. Un jour, il a dit « La plus grande chose qu'il y a à apprendre est simplement d'aimer et d'être aimé en retour. » Voilà, une histoire comme on a l'impression que seuls les grands espaces et la démesure des États-Unis peuvent en produire. Ça me fait un peu penser au destin de Moondog, d'ailleurs, dont je vous avais déjà parlé dans cette émission. Et pour clore l'épopée de ce tube Nature Boy, écoutons-le chanté par son tout premier interprète, Nat King Cole, dans une version lors d'un live pour la télévision, c'était en 1951.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be
just a laugh and be loved in return.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et tout de suite, comme chaque mercredi, c'est le moment de la chronique Parlons Ciné avec Cinéco, autour aujourd'hui du film La femme la plus riche du monde, librement inspirée par l'affaire Bagné-Bettencourt. Pour rappel, Bettencourt, c'est Liliane, femme d'affaires et milliardaire française, héritière et principale actionnaire de L'Oréal. Bagné, c'est François-Marie, un photographe et écrivain avec qui elle avait noué une relation d'amitié et qui a été accusée en 2007 par la fille de Liliane, Françoise, de profiter de la fragilité psychologique de sa mère pour obtenir près d'un milliard d'euros de dons. Affaire qui avait défrayé la chronique pendant presque 10 ans. Mais ce n'est pas exactement de ça dont on parle aujourd'hui. La femme la plus riche du monde, c'est d'abord du cinéma.
Parlons ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi, Jérôme, pour la rubrique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Oui, bonjour Raphaël. Bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Donc, cette semaine, je vous présente La femme la plus riche du monde, qui est programmée actuellement sur les écrans de Cinéco. Alors, pour ne pas vous cacher, je suis peut-être comme certains d'entre vous. Moi, au départ, je ne voulais pas aller voir ce film. Déjà, premièrement, parce que je n'ai pas le temps de tout voir. Je suis obligé d'être très sélectif. Sinon, de par mon métier, je passerai ma vie 24 heures sur 24 devant un écran. Et puis surtout, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas forcément un sujet qui m'attirait, bien que ce soit un film de Thierry Cliffin. L'affaire Bettencourt, on va dire que oui, c'est intriguant, évidemment, ça intrigue beaucoup de gens. Voir comment des gens aussi riches peuvent perdre pied, comment tout un système gravite autour, politique, intérêt, rapport de pouvoir. Moi, ce n'est pas vraiment le genre de truc sur lequel je prends le temps de m'arrêter. Et en fait, j'y suis allé pour une raison très simple. Mon épouse voulait voir le film et si ça lui fait plaisir, ben c'est déjà une très bonne raison. Donc j'y suis allé un peu à reculons, j'avoue. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça rappelle aussi que le cinéma, parfois, c'est justement ça. Aller voir des films qu'on n'a pas envie de voir, sortir de ses a priori, de ses filtres, parce que sinon on finit par ne voir que ce qu'on a déjà décidé d'aimer. Et puis donc là, je rentre dans la salle de cinéma, on s'installe, le film commence et la magie opère. Le talent de Thierry Cliffin et de son casting fait le travail. On est embarqué dans quelque chose de beaucoup plus vaste que le simple fait divers d'ultra-ultra riche. Parce que oui, c'est librement inspiré. Mais le fond de cette histoire existe. Et ce que le film en fait, c'est presque une farce, une pièce de théâtre, une opérette même parfois. C'est un espèce de mélange de tout ça. Donc au centre, une femme immensément riche, interprétée par Isabelle Huppert, et un photographe fantasque joué par Laurent Lafitte. Sachez que c'est d'ailleurs la deuxième fois que ces deux acteurs se retrouvent à l'écran ensemble. La première fois, ce fut dans le film « Elle » de Paul Verhoeven, que je vous conseille. Donc Lafitte, aujourd'hui sociétaire de la Comédie-Française, a parcouru un sacré chemin depuis ses débuts dans « Classe mannequin » dans les années 90, pour les gens qui ont le même âge que moi. Ici, il incarne Fantin, un photographe et artiste de métier, qui est un personnage excessif, provocateur, presque incontrôlable, une sorte de perturbateur qui vient faire exploser un monde parfaitement verrouillé. Sachez que pour ce rôle, il a reçu le César du meilleur acteur. D'ailleurs, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé son interprétation de Fantin extraordinaire. On peut dire que c'est un acteur vraiment d'un très très grand talent. Face à lui, Isabelle Huppert compose un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. C'est une femme de pouvoir, une femme immense, installée dans une richesse presque abstraite, mais en même temps profondément seule, enfermée dans une vie entièrement codifiée, réglée, presque figée. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne la présente jamais comme une victime. Au contraire, elle garde toujours une forme de lucidité, de contrôle, mais derrière cette maîtrise, on sent quelque chose qui cherche à surgir. La rencontre avec Fantin, le photographe, agit comme un déclencheur. Il vient introduire du désordre, du mouvement, presque une forme de liberté dans une existence totalement verrouillée. Et elle s'y engouffre. Ce n'est pas seulement une histoire d'influence ou de manipulation. C'est aussi le portrait d'une femme qui découvre peut-être tardivement une possibilité d'être autrement, de sortir du rôle qu'on lui a assigné. Huppert joue tout ça avec une précision incroyable, par petites variations presque imperceptibles. Un regard, un sourire, un relâchement. Et c'est ça qui est fort. Plus le personnage se laisse emporter, plus on se demande si elle perd le contrôle ou si au contraire, c'est la première fois qu'elle le prend vraiment. Autour d'eux, tout un système familial va se mettre en mouvement. Et c'est là qu'intervient Marina Foïs, qui retrouve Thierry Cliffa après Les yeux de sa mère en 2011, avec qui elle avait déjà tourné. Elle incarne ici Frédéric, la fille, un personnage passionnant, une femme qui cherche sans cesse sa place, enfermée dans un héritage familial, social et affectif dont elle ne parvient jamais à s'extraire. Tout chez elle relève du rôle, du maintien, du vernis, et ce vernis peu à peu se fissure. Le film aborde alors frontalement les relations mère-fille avec cette phrase terrible. Tu veux savoir si je t'aime? Je ne sais pas si je t'aime. Marina Foïs le dit très bien. Dans ce film, la tendresse est absente de tous les échanges, sauf dans le lien singulier qui unit Fantin à Marianne. Et c'est là que le film devient troublant, parce que cette relation qui pourrait apparaître comme toxique ou intéressée est peut-être la seule à contenir une forme de vie. Et puis, il y a un personnage essentiel, le majordome, interprété par Raphaël Personnaz, un personnage à la frontière. Il est dedans et dehors à la fois, comme les majordomes. Il voit tout, comprend tout. Il aurait presque pu être du côté de Fantin, mais Fantin, le photographe incarné par Laurent Lafitte, ne cesse de l'humilier, comme s'il refusait de voir en lui un reflet de sa propre condition d'artiste. Le majordome devient alors une figure de lanceur d'alerte. Celui qui parle, celui qui dérange. Et comme souvent, dans la fiction et surtout comme dans le réel, celui qui dit la vérité est aussi celui qu'on met de côté, celui qu'on sacrifie. Et finalement, c'est peut-être là que le film est le plus juste. Parce que Thierry Cliffa ne cherche jamais à juger ses personnages. Il le dit lui-même. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire pleurer sur le sang des ultra-riches, mais d'observer comment l'argent vient décupler les rapports humains. Et c'est exactement ce que fait le film. Il observe, il dérange parfois et il amuse aussi. Mais surtout, il nous laisse regarder ses personnages sans nous dire quoi penser. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de voir le film. Et si vous trouvez que j'en ai trop dit sur le film, allez le voir et vous verrez que je n'en ai pas dit assez et que je ne vous ai quasi rien raconté dans cette chronique et que j'ai même sauté quelques personnages importants pour vous inviter à découvrir ce film. Bonne séance.
Merci beaucoup Jérôme, le suspense reste entier donc pour découvrir ce film de Thierry Cliffa, La femme la plus riche du monde. Merci, à bientôt.
Merci.
Et pour voir la femme la plus riche du monde en Cévennes, ça commence dès ce soir à Florac avec une séance à 21h à la Jeunette Verte. Et ensuite demain, jeudi à Saint-Enimi à 21h également. Vendredi, ce sera à Hispaniac, toujours à 21h. Samedi à Saint-Martin-de-Lensuscle, encore une fois à 21h. Et dimanche à 17h30 à Saint-Étienne-Vallée-Française. Et pour la suite de la programmation, rendez-vous sur le site de Cinéco ou sur celui de Radio Bartas. Je mettrai le lien sur la page de l'émission et sur celle de la chronique. Vous pourrez retrouver toutes les horaires du film. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Moi, je vous dis à demain pour un prochain rendez-vous à midi et des poussières précisément. Et d'ici là, restez à l'écoute sur le 107 ou sur radiobartas.net. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière ces petites phrases que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.